France Info. France Info, les informés, Pierre Neveu.
Bonsoir, heureux de vous retrouver sur le plateau des informés ce soir, à la radio, sur France Info, la télévision, le canal 27 de la TNT, puis bien sûr sur vos tablettes et ordinateurs, franceinfo.fr pour débattre de l'actualité. Ce soir, nos informés sont François Hernenwein. Bonsoir François.
Bonsoir.
Rédacteur en chef au quotidien La Croix. Bruno Dive. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Éditorialiste au quotidien Sud-Ouest. Vous publiez en ce moment Crime et renoncement. Quand la politique dépasse la fiction, c'est aux éditions de l'Observatoire. Judith Vintrop. Bonsoir Judith.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro Magazine. On accueille également avec plaisir Alban Micosi. Bonsoir Alban.
Bonsoir Pierre.
Rédacteur en chef adjoint au service international de France 2. Au sommaire de ces informés.
Nous avons voulu que Simone Veil entre au Panthéon sans attendre que passent les générations, comme nous en avions pris l'habitude, pour que ses combats, sa dignité, son espérance restent une boussole dans les temps troublés que nous traversons.
Simone Jacob, déportée à Auschwitz-Birkenau, devenue Simone Veil, magistrate, ministre de la Santé, présidente du Parlement européen, immortelle et maintenant éternelle. Simone Veil est entrée au Panthéon ce midi. La République honore une femme d'exception parmi ses grands hommes. Dans ces informés de France Info, on parlera d'une mesure impopulaire pour réduire la mortalité routière. 80 km/h sur le réseau secondaire. Le Premier ministre est droit dans ses bottes sur cette question. Et puis nous parlerons football, une Coupe du Monde qui réussit pour l'instant à la France, qualifiée pour les quarts de finale. Une Coupe du Monde qui réussit à la Zbornaïa et donc à Vladimir Poutine. La soft politique au service du maître du Kremlin. Et nous ouvrons ces informés de France Info par l'hommage de la nation à Simone Veil, ancienne déportée, ancienne ministre de la Santé, ancien président du Parlement européen. Je dis ancien parce qu'elle n'aimait pas la féminisation des fonctions. Simone Veil et son mari Antoine Veil reposent désormais au Panthéon aux côtés de Jean Moulin ou encore de Jean Monnet. Son entrée au Panthéon était une évidence, c'est ce qu'a dit aujourd'hui le président de la République, car la France aime Simone Veil, Bruno Dive.
Oui, c'était le plus intéressant, c'était que Emmanuel Macron s'est expliqué pourquoi cette panthéonisation aussi rapide. Parce que c'est un an après, je pense que je serais peut-être contredit, mais le record est battu. Les nouveaux voisins de Simone Veil, André Malraux, Jean Moulin, ont attendu une vingtaine d'années avant d'entrer au Panthéon. Simone Veil, c'est un an. Alors, est-ce que ça participe de l'accélération de la société? Après tout, même l'Église catholique accélère ses procédures, puisque Jean-Paul II est béatifié, hein, n'est-ce pas, François, au bout de 8 ans. Mais l'explication qu'a donnée Emmanuel Macron, c'est la volonté de donner un exemple, notamment aux jeunes générations, alors que, c'est son expression, les vents mauvais se mettent à nouveau à souffler. Et donc, il y avait pour lui urgence à donner l'exemple de la vie de Simone Veil. Et quel exemple, en effet, avoir survécu au camp de concentration, puis s'être engagé ensuite en faveur de la construction européenne, une construction européenne aujourd'hui très contestée.
Alors Bruno, vous citez le chef de l'État qui parle de l'engagement, du parcours exemplaire de Simone Veil. On écoute justement le président Emmanuel Macron.
Nous devons à Simone Veil de ne pas laisser les doutes et les crises qui frappent l'Europe atténuer la victoire éclatante que depuis 70 ans nous avons remportée sur les déchirements et les errances des siècles passés. Rien ne serait pire que renoncer à l'espoir qui a fait naître l'Europe des ruines où elle s'était ensevelie et où elle aurait pu périr. Nous sommes, aujourd'hui, les dépositaires de ce défi aux vieilles nations qu'elle ne cessa de vivifier. Ce défi est le nôtre, celui de la jeunesse de France et d'Europe. Alors que les vents mauvais à nouveau se lèvent, il est notre plus bel horizon.
Le défi de la jeunesse alors que des vents mauvais se lèvent. Voilà un extrait du discours du président de la République, François Hollande.
Tout est synthétisé dans cette phrase et le sens de ce bel hommage se trouve là. Il y a la vie de Simone Veil, ses combats, etc. Mais tout ce que rappelle cette cérémonie et ce qu'a dit le président de la République et ce que vient de rappeler Bruno Dive, c'est ça. Tous les combats de Simone Veil sont encore des combats pour aujourd'hui. Contre l'antisémitisme, le racisme, pour la promotion de la cause des femmes et pour la construction européenne. Je crois que c'est le président de la République qui a utilisé l'expression « des vents mauvais ». Ces vents mauvais existent, je pense que cette rapidité avec laquelle Simone Veil et son mari sont entrés au Panthéon, c'est la volonté de galvaniser aujourd'hui ceux qui ne se satisfont pas de l'état du monde tel qu'il est.
Judith Vintraube, sur ce discours du chef de l'État, sur ses propos.
Il ne faut pas oublier non plus que les européennes ont lieu l'année prochaine. Ce n'est pas faire insulte à Emmanuel Macron de dire que c'est une échéance électorale qui compte beaucoup à ses yeux. D'autant qu'il est le plus européen des chefs de mouvement, même s'il n'est pas le chef de la République En Marche. En tout cas, c'est lui qui revendique, revendique et qui porte le drapeau. Sur les vents mauvais, moi, tel que je l'ai compris, ce n'est pas simplement les vents mauvais qui risquent d'abattre l'Europe en tant que construction et construction issue de la paix et faite pour la préserver.
C'est beaucoup
c'est aussi
plus
général. Les vents mauvais du nationalisme. Il avait déjà parlé de l'EPRE en parlant des dirigeants italiens, des dirigeants d'Europe de l'Est qui ont été élus. Ce que je regrette un peu, c'est ayant fait cette incidente sur l'actualité immédiate, qu'il ne l'ait pas faite aussi sur l'antisémitisme. Parce que c'était quand même le premier combat de Simone Veil et ça, il n'en a pas parlé.
On va poursuivre ce
c'était
débat.
Englobé dans les vents mauvais, je pense.
Oui, bah, ça ne vient pas du même endroit non plus.
On va poursuivre ce débat dans les informés dans un instant avec vous, madame, messieurs. 20h10 sur France Info, l'essentiel de l'info à présent avec vous, Julie Smul.
Et direction tout de suite la Russie, le mondial, pour le match Danemark-Croatie. 10 minutes de jeu et déjà des buts, Jacques Vendroux.
Oui Julie, l'équipe du Danemark a ouvert le score par Jorgensen après une minute de jeu. 4 minutes plus tard, c'est la Croatie par Mandzukic qui vient d'égaliser. Et bien après exactement 10 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, un partout.
Match qu'on continue à suivre ensemble ce soir sur France Info. Une cérémonie pleine d'émotions aujourd'hui au Panthéon pour y accueillir Simone Veil et son mari Antoine. Des milliers de personnes rassemblées pour rendre hommage à celle qui s'est battue toute sa vie pour les droits des femmes, pour l'Europe aussi. Demain, les cercueils du couple rejoindront le caveau dans lequel reposent déjà Jean Moulin, André Malraux, René Cassin et Jean Monnet. Pas de faille de sécurité à la prison de Réau en Seine-et-Marne, d'après la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Prison dont Redouane Faïd, le braqueur récidiviste, s'est évadé ce matin. Une évasion spectaculaire qui a duré quelques minutes avec l'aide de plusieurs complices armés et d'un hélicoptère. Et puis les orages arrivent ce soir sur l'ouest de la France. 21 départements placés en vigilance orange. Ça va de la Bretagne aux Pyrénées, en passant par la Creuse. Dans le Lot-et-Garonne, par précaution, des milliers de personnes évacuées aujourd'hui du festival Gare au Rock. On attend des orages de grêle très violents dans la soirée.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
On poursuit le débat sur cet hommage national à Simone Veil avec vous, Alban Micosi, vous qui avez un œil à viser, une expertise sur la politique internationale. Il y a un message fort du chef de l'État à propos de l'Europe. Simone Veil, symbole de la réconciliation aussi franco-allemande. Et le chef de l'État qui dit « l'Europe doit continuer à exister ».
Oui, comme souvent, ce type de cérémonie sert davantage à écouter la parole de celui qui parle, finalement, aussi qu'à rendre hommage à la personne. Moi, j'ai noté que sur les panthéonisations, on peut appeler ça comme ça, il y a toujours une volonté. Finalement, qu'est-ce qui est au départ chez les premiers révolutionnaires, Voltaire, Rousseau, ils se célèbrent eux-mêmes. Ils célèbrent le siècle des Lumières et donc eux-mêmes. Les républicains, tendance dure, laïque, on fait Zola. Jean Moulin, c'était pour le général de Gaulle l'occasion de rendre hommage à ce mythe ou cette réalité, disons un peu des deux, de la France résistante. Eh bien, Emmanuel Macron a choisi cette panthéonisation rapide de Simone Veil parce que finalement, elle correspond à ce qu'il est lui-même. Et quelque part, beaucoup des propos tenus par Simone Veil auraient pu être tenus par Emmanuel Macron. Donc oui, il est dans la revendication de ceux qui sont ses idées forces et évidemment de la défense de l'Europe.
Bruno Dives, est-ce que cette panthéonisation, cet hommage va au-delà de la politique partisane ?
Oui, bien sûr. Mais je vais quand même juste rebondir sur un peu politique partisane, parce que sur ce que disait Alban, Simone Veil était une précurseuse d'Emmanuel Macron. Elle a créé En Marche avant Emmanuel Macron. Ça s'appelait le Club Vauban. Oui. C'était pas un peu confidentiel, mais ça réunissait des personnalités de gauche et de droite. Et donc c'était très en avance sur la période actuelle. Pour sortir de la politique politicienne, non, je crois que c'est ce qu'on disait au début. Il y a une volonté de donner en exemple aux jeunes générations cette femme qui incarne le combat, François l'a dit, pour le droit des femmes, pour l'Europe, pour le refus de l'oubli également, de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et puis il y a aussi, je crois, chez Emmanuel Macron, la volonté de donner en exemple des héros aux Français, aux jeunes notamment. C'est très net depuis quelques mois. On l'a vu avec le colonel Beltrame, qui a eu droit à un hommage national aux Invalides. On l'a vu avec ce sans-papier malien, vous savez, qui avait escaladé un immeuble pour sauver un enfant, qui a eu droit à ses papiers. Il y a toujours cette volonté de donner en exemple aux Français des héros positifs. Et je crois que Simone Veil faisait partie de cette galerie, de ce petit panthéon, finalement, d'Emmanuel Macron.
Judith Vintraubet, est-ce que Simone Veil aurait pu être présidente de la République? Parce qu'on honore aujourd'hui cette femme qui a eu un rôle important dans la vie politique et dans la vie française. Est-ce qu'elle aurait pu devenir présidente de la République?
Je ne suis pas sûre qu'elle l'aurait souhaité, parce qu'en fait, elle est arrivée en politique par le haut, à cause de ses fonctions éminentes, parce qu'elle était magistrate, parce qu'elle s'était engagée dans des combats, mais elle n'a pas fait de la politique au sens où son mari Antoine, lui, s'était programmé lui-même pour en faire et avait abandonné parce qu'il s'était rendu compte que
ça n'était pas son chemin.
Non, ça n'était pas son chemin. Elle n'aimait pas beaucoup les batailles électorales. On sait que la campagne
des compromis
à l'issue de laquelle elle a été élue. Premier président, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas qu'on dise première présidente élue, parce qu'en fait c'est le premier président élu et c'était une femme du Parlement européen. C'était pas vraiment une femme de compromis, elle n'avait pas un caractère facile. D'ailleurs, elle disait et elle expliquait que le fait d'avoir survécu à la déportation à Auschwitz, c'était pas une preuve de douceur et de gentillesse.
Elle le disait elle-même qu'elle était une femme dure.
Absolument dure et qui avait dû apprendre la dureté. Mais je ne crois pas que le combat politique la passionnait. Et je l'ai peu connue, mais je l'ai vue déjà dans ses brefs. Exprimer une exaspération des petits combats politiques, des jeux politiciens. C'était pas du tout son truc.
François Rannenwein.
Moi, je pense que la politique politicienne n'était pas son terrain d'élection, si je puis dire. Une chose est sûre, en revanche, c'est que les combats étaient un moteur important pour elle. Et ce qui m'a gêné un petit peu, je me réjouis que cette panthéonisation ait eu lieu dans les conditions dans lesquelles elle a eu lieu. Mais quand le président de la République explique que pratiquement tous les Français souhaitaient tacitement et intensément l'entrée de Simone Veil au Panthéon, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Il y a en France des adversaires déterminés de ce que représentait Simone Veil, et il a fallu tout le courage qu'on évoquait tout à l'heure, non pas le courage politique au sens politicien du terme, mais la volonté politique pour avancer dans les champs qu'elle a explorés, qu'on a cités tout à l'heure, la lutte contre l'antisémitisme, la cause des femmes et la construction européenne. Et moi, ce qui me fascine dans la personne de Simone Veil, c'est son courage, c'est précisément, alors que les vents étaient contraires dans un certain nombre de combats qu'elle a menés, elle avait ce courage d'aller se battre. Et c'était pas en des temps de consensus mou, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Elle a mené de vraies batailles.
Alban Micosi.
Oui, effectivement, quand on pense à celle sur l'avortement, elle a même mené une bataille contre une partie de son propre camp, et avec des tombereaux d'injures qui aujourd'hui nous sembleraient impossibles, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde du politiquement bien plus correct que ce qui était le cas en 1974.
Alors, puisque l'on parle de cette question de l'émancipation des femmes, du combat de Simone Veil en 1974, voici un extrait du discours du chef de l'État ce matin.
Avec Simone Veil, entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France, sans que la nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur étaient dues. Qu'aujourd'hui, par elles, justice leur soit à toutes rendue.
Vite, Vintraube.
Oui, alors il faut.
C'est mot fort du chef de l'État.
Oui, il faut relever aussi le rapport particulier qu'avait Simone Veil au féminisme. Elle ne se disait pas féministe, elle refusait même ce qualificatif, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une attention toute particulière aux femmes dans la détresse, puisque c'est ainsi qu'elle qualifiait les femmes qui devaient se faire avorter ou les femmes en prison. En 92, elle avait écrit à François Mitterrand avec plusieurs autres, justement, pour que les femmes aient droit d'entrer elles aussi au Panthéon. Donc ça s'est réalisé. Et pourquoi elle se disait pas féministe? D'abord parce que le féminisme a longtemps été, à la période où il a commencé à émerger à gauche, voire à l'extrême gauche. Donc c'était pas du tout sa famille politique naturelle. Et puis parce qu'elle considérait que c'était une erreur de base de mélanger le combat social et le combat féministe. Elle disait que c'était la meilleure façon de n'arriver à rien et de le pervertir.
Bruno Dive, le chef de l'État qui dit que les combats de Simone Veil ne sont pas terminés. Le combat de l'Europe, le combat de l'égalité femmes-hommes, c'est le message principal aujourd'hui du chef de l'État.
Oui, incontestablement. Le combat de l'Europe, en tout cas, qu'on voit à quel point l'Europe est contestée, en son sein même, par des gouvernements dits populistes qui ne respectent pas, à l'est de l'Europe notamment, les règles européennes, contestées par une partie des opinions publiques qui sont effrayées par cet élargissement, cette construction un peu trop rapide. Donc, il y a évidemment un combat à reprendre sur ce plan. Le dépassement du clivage droite-gauche aussi, mais ça, de ce point de vue-là, je vous l'ai dit, Emmanuel Macron est parfaitement en phase avec elle. Et puis le combat des femmes, mais moi je suis assez d'accord avec Judith, je crois qu'elle a porté ce combat pour l'avortement, la libéralisation de l'avortement. Elle a été une première femme, faut pas oublier qu'elle a été la première femme vraiment ministre depuis les années qui ont suivi la libération.
47.
Oui, mais c'est pas pour ça que elle recherchait. Les derniers temps de sa vie, elle s'était effacée. Mais c'est pas pour ça qu'elle recherchait un combat féminin ou féministe pour le plaisir de trouver un combat ou un combat féministe. Elle choisissait ses causes.
On va poursuivre ce débat dans un instant sur France Info. La suite des informés consacrée notamment à cet hommage national à Simone Veil. Avant cela, à 20h20, l'essentiel de l'info, c'est avec vous, Julie Smul.
Trois personnes, trois complices ont aidé Redouane Faïd à s'évader ce matin de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Confirmation ce soir de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Scène surréaliste ce matin au parloir. Des hommes armés qui viennent chercher le détenu. Un hélicoptère qui se pose dans la cour de la prison pour le récupérer. Toutes les polices de France sont ce soir mobilisées pour le retrouver. 4 morts et une vingtaine de blessés à Gao, dans le nord du Mali. C'est le bilan encore provisoire de cette attaque terroriste à la voiture piégée. Aujourd'hui, attaque contre des soldats français de l'opération Barkhane. Aucune victime côté armée, d'après l'état-major, mais des civils ont été tués. 10 km/h de moins sur la plupart des routes secondaires de France. La mesure est en place depuis aujourd'hui. Les premiers contrôles de police ont eu lieu. Les forces de l'ordre promettent d'être indulgentes au début, le temps que tous les nouveaux panneaux 80 soient installés. Un match qui démarre très fort ce soir au Mondial entre le Danemark et la Croatie. Un partout après seulement quelques minutes de jeu. La surprise de la journée dans cette Coupe du Monde, c'est l'élimination de l'Espagne, sortie au tir au but par la Russie cet après-midi. Et puis la 34e édition de la fête du cinéma, ça commence aujourd'hui. 4 euros par séance pendant 4 jours. Objectif, faire mieux que l'année dernière et attirer plus de 3,2 millions de spectateurs.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Dans ces informés de France Info, on continue à débattre de cet hommage national ce matin à Simone Veil, la nation qui a besoin de symboles au travers de cette panthéonisation. Est-ce qu'à travers ce geste du président de la République, Judith Vintraube, on peut dire que c'est l'Europe et aussi l'Holocauste qui entre au Panthéon?
Oui, Oui, absolument, même si Simone Veil était absolument contre l'idée d'être reconnue et décorée en tant que victime. Hein. Elle s'était même élevée avec beaucoup de vigueur contre cette idée de décorer des victimes. Il a fallu attendre François Hollande, vous savez, pour qu'il ait l'idée qu'un président de la République décore, en l'occurrence, les victimes d'attentats. C'est passé à peu près inaperçu dans le désordre qui était la fin du précédent quinquennat, mais beaucoup de gens ont été choqués, j'en ai fait partie d'ailleurs. Simone Veil ne se concevait pas comme une victime, mais comme une survivante, comme une rescapée et qui s'était battue.
François Hollande, les symboles importants pour une nation?
Ça me paraît une question importante. Je suis pas tout à fait d'accord avec Judith. À travers cet acte, c'est l'antisémitisme. Encore une fois, l'entrée de Simone Veil au Panthéon signifie la volonté marquée de combattre l'antisémitisme en France.
Oui, mais il ne l'a pas dit.
Mais il l'a fait.
Oui, d'accord.
On va poursuivre ce débat des informés sur l'actualité du moment, ce matin, 1er juillet, dimanche 1er juillet. On a levé le pied sur les réseaux secondaires, les routes départementales, 80 km/h au lieu des 90 km/h. Décision affichée par le Premier ministre contre l'avis du ministre de l'Intérieur. Cet objectif, Alban Micosi, le Premier ministre le porte seul. Est-ce que c'est dur à porter?
Il a même dit aujourd'hui qu'il ne faisait pas ça pour emmerder les Français, hein, oui. Dans ces termes-là. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, c'est un combat dans lequel il existe. On entend finalement peu le Premier ministre sur les grands dossiers. On parle principalement de la présidence d'Emmanuel Macron. Et finalement, on a l'impression que le Premier ministre, c'est le premier de ses collaborateurs, comme avait dit un ancien chef de l'État parlant de
François Fillon,
d'un de ses ministres, de ses premiers ministres. Mais en l'occurrence, ce qu'il a voulu... Voilà. Il y a deux choses. Il y a une mesure technique. Peut-elle contribuer à réduire le nombre de morts sur les routes? Semble-t-il, oui. Diminuer la distance de freinage, ça contribue effectivement à plus de sécurité sur les routes. Puis après, il y a un vrai débat politique. Il y a toute une partie des Français, notamment ceux qui habitent en région, qui ont l'impression déjà que ce gouvernement leur met coup sur coup de manière régulière. Et là, ils ont l'impression que cette mesure, elle est aussi dirigée contre eux. Parce que réellement, le réseau des routes qui sont touchées, ce sont des routes hors les principales agglomérations, où on ne roule pas à 90 km/h depuis longtemps.
Bruno Dive, c'est la brutalité de la décision qui ne passe pas?
Oui, il y a quelque chose qui me choque dans ce que vient de dire Alban. Il ne l'a pas fait exprès, sans doute, mais
c'est
la mesure technique, mais il n'est pas le seul à tenir ce langage. Il y a à côté la mesure technique, c'est-à-dire diminuer la vitesse pour réduire le nombre de morts. Est-ce que la réduction, la défense de la vie relève d'une mesure technique? Moi, je trouve ça extrêmement choquant. On entend aussi parfois dire, oui, mais cette mesure, elle permettra d'économiser peut-être pas plus de 300 vies par an.
C'est les défenseurs de la mesure qui disent ça.
Bien sûr, mais
pas ses opposants.
Imaginons que, évidemment, mais imaginons que il y a les opposants aussi, les gens qui sont sceptiques disent ça vaut pas le coup.
Non, les gens qui sont sceptiques disent, et à juste titre, que aucune étude sérieuse n'a été menée sur l'impact de la vitesse et d'elle seule. Parce que c'est très difficile à mener, et qu'en revanche, et là on revient à votre question sur est-ce que c'est la méthode qui est choquante ou le fond, on revient sur la méthode. Le fait que ça a été imposé uniformément à toutes les routes secondaires, sans laisser les élus locaux prendre la moindre responsabilité, est choquant.
Voilà, il y a là quand même le fond de la mesure. Est-ce que si ça permet d'économiser effectivement 300 vies, peut-être que ça vaut le coup de la faire, ça vaut le coup d'essayer. On sait très bien que la vitesse est un facteur principal facteur de mortalité sur la route.
Après,
on peut discuter sur les modalités. Est-ce qu'il fallait mettre
sur
cette mesure
technique,
partout,
soyons unilatéralement bien clair. Non, mais si on veut réduire réellement le nombre de morts sur les victimes sur les routes en France, il faut améliorer nos infrastructures.
Mais il faut jouer sur tous les tableaux.
Bien sûr, mais ça coûte de l'argent.
On aurait pu décider que cette mesure aurait pu être moins unilatérale. On aurait pu laisser la mesure au préfet. De toute façon, façon, je rappelle que c'est une expérience. Je pense qu'au préfet, c'est peut-être plus prudent. C'est une expérience.
Quelle méfiance de la part d'un journaliste.
Parce qu'on sait bien que les élus sont quand même sous la pression de leurs administrés. Alors en même temps, c'est eux qui viennent annoncer. Quand il y a un accident de la route, c'est eux qui viennent aussi annoncer.
Bruno, Judith, Alban, François, on va poursuivre ce débat. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça suscite des réactions, ça suscite débats, des oppositions, des confrontations d'idées. Restez avec nous sur France Info. Les informés reviennent dans 3 minutes, juste après la météo et l'info. À tout de suite.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
Comme tous les dimanches soirs, on fait un point circulation OPC mobilité avec vous, Laurent Borde.
Oui, on commence par cet accident sur la 7 entre Lyon et Marseille. Un véhicule avec une caravane en direction de Marseille. Après la sortie 18 Montélimar Sud, au niveau des Granges-Gontard dans la Drôme, la circulation s'améliore dans ce secteur puisqu'il y a 2 km de bouchons dans chaque sens. Et puis, en région parisienne, il y a un accident sur la Francilienne intérieure au niveau de Mitry-Mory. 2 véhicules sont sur la voie de gauche et là, vous mettez un quart d'heure entre Mitry-Mory et Villeparisis.
Merci Laurent Borde. La météo à présent.
France Info Météo, avec CIC et vous, pour ne pas avoir à choisir entre l'humain et le digital. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
On regarde la carte du ciel avec vous Jean-Michel Golinski, Météo France.
Risque d'orages violents sur toutes les régions de la façade atlantique à partir du sud de l'Aquitaine en fin d'après-midi jusqu'à la Bretagne demain matin. Ces orages forts pourront également toucher le centre, le Limousin, le Val-de-Loire et la Basse-Normandie. Il conviendra donc de consulter régulièrement la carte de vigilance pour voir quels sont les départements exposés aux phénomènes les plus forts. Demain, c'est une large moitié ouest du pays qui verra au fil des heures s'installer les orages, en gros entre l'océan, la Seine, la Bourgogne, la vallée du Rhône et les Pyrénées, des orages toujours potentiellement forts. Par contre, du nord de la Seine à l'Alsace, il va continuer à faire très beau. Et autour de la Méditerranée, malgré un ciel variable, le temps va rester sec. Le tout dans des températures plus respirables qu'au cours du week-end, de 28 à 30 degrés en général, localement 35 sur le département du Rhône, qui pour le moment reste en vigilance orange canicule.
Il est 20h30 sur France Info.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info avec Augustin Rivet.
Nicole Belloubet ne remet pas en cause la sécurité de la prison de Réaux en Seine-et-Marne. Elle s'y est rendue ce soir, quelques heures après l'évasion par hélicoptère du braqueur multirécidiviste Redouane Faïd. D'après la garde des Sceaux, ses complices pourraient avoir réalisé des repérages par drone. La police n'a pas encore retrouvé sa trace. Elle a connu le pire du XXe siècle et s'est pourtant battue pour le rendre meilleur. Voilà ce qu'a fait remarquer Emmanuel Macron à propos de Simone Veil. Cérémonie ce matin pour son entrée au Panthéon. Cérémonie avec cette allusion à sa déportation au camp d'Auschwitz. Elle sera ensuite devenue l'une des figures de la construction européenne. La dernière soirée du festival Garorock annulée à Marmande dans le Lot-et-Garonne, la préfecture a pris ses mesures de sécurité en raison des risques d'orages. 21 départements en alerte orange Météo France sur toute la façade atlantique de la frontière espagnole à la Manche, tandis que dans les Hauts-de-France, il faut éviter les activités en extérieur. Mais là, en raison d'un pic d'ozone, pollution de l'air et pollution de l'eau en Corse avec une nappe de paraffine dérivée du pétrole repérée au large de Solenzara sur la côte Est. Il s'agit de savoir qui se frottera au footballeur russe en quart de finale de la Coupe du Monde après l'élimination tout à l'heure de l'Espagne au tir au but. Se dispute en ce moment la première période entre Croatie et Danemark. Jacques Vendroux a démarré très vite, un but partout après une demi-heure de jeu.
Exactement, après 32 minutes de jeu, eh bien, l'équipe de Croatie et l'équipe de Danemark sont toujours égalité. Un partout, première minute de jeu. Jorgensen, eh bien, ouvre le score pour l'équipe du Danemark. Et 4 minutes plus tard, Mandzukic, l'avançant de la Juventus de Turin, eh bien, égalise. Et c'est vraiment un super match entre ces deux équipes. Le gardien croate Subatic, le gardien de Monaco, eh bien, est sans arrêt sollicité. Et le gardien de Leicester, le club entraîné par Claude Puel, Schmeichel, est également, je veux dire, mis à contribution. En tous les cas, c'est un bon match à l'occasion de cette rencontre qui va définir évidemment l'adversaire de l'équipe de Russie qui, vous le savez, tout à l'heure, a battu l'équipe d'Espagne.
Merci Jacques Vendroux. Ce résultat de Formule 1, circuit de Spielberg, Grand Prix d'Autriche. Victoire cet après-midi du Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull devant la Ferrari du Finlandais Kimi Raikkonen. Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont abandonnés. Un convoi militaire de la force Barkhane visé par un attentat ce matin au Mali. Une explosion au passage de véhicules blindés à Gao. L'état-major des armées françaises assure qu'aucun soldat n'a été tué. Il y a en revanche un grand nombre de victimes civiles. Pas de bilan précis pour l'instant et pas encore de revendications. Pierre Neveu, de retour pour la suite des informés. Il est 20h33 sur France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
La deuxième partie du débat des informés de France Info sur France Info avec ce soir François Hernenwein du journal La Croix avec Bruno Dive du journal Sud-Ouest et vous publiez, je le rappelle, Crime et renoncement quand la politique dépasse la fiction aux éditions de l'Observatoire avec Judith Vintraube de la rédaction du Figaro Magazine et avec Alban Micosi de France Télévisions. On revient sur cette question de la limitation de vitesse sur le réseau secondaire. Décision brutale pour les automobilistes, pour certains élus, prise par le Premier ministre, assumé en plus en tant que tel. Est-ce que sur cette façon de procéder, le gouvernement n'a-t-il pas oublié de faire sa politique du « en même temps je décide, en même temps je mets une phase de concertation » comme sur le projet de Notre-Dame-des-Landes par exemple ?
Si, en plus, ça, on ne comprend vraiment pas pourquoi est-ce qu'il a, à ce point-là, exclu, moi je continue à dire les élus locaux plutôt que les préfets, car les préfets ne sont là que pour appliquer les directives de l'État, donc c'est pareil.
Locaux. C'est ce que suggérait son ministre de l'Intérieur, en tout cas.
Oui, tout à fait. Gérard Collomb, mais ça commence à lui coûter très cher. Déjà les deux fois consécutives où Gérard Collomb a dit qu'il n'était pas d'accord, la deuxième en sortant un joker quand on lui a demandé son avis sur la question. Les Français sont complètement rétifs à cette mesure, ou en tout cas à la façon de la prendre, telle qu'elle est présentée. Il y a vraiment une grosse majorité, ça tranche avec tout le reste de l'action qu'il a entreprise depuis qu'il est élu. On se demande pourquoi il a éprouvé le besoin d'aggraver un reproche qui lui était déjà fait d'ailleurs, c'était de décider seul d'être plus jacobin que girondin, et là il enfonce encore le clou.
Alors, parmi les mesures qui ont été prises, hein, regardez les statistiques, hein, ce sont des statistiques. En 2002, les premiers radars automatiques font leur apparition sur les routes. Et on estime, ce sont des statistiques, que 50 000 vies ont été épargnées depuis la mise en place des radars automatiques sur le bord des routes, ce qui représente une économie de 420 milliards d'euros pour les comptes publics. François Hernenwein.
Quelle est la question ?
Est-ce qu'il faut prendre des mesures telles que celle-ci ? On réduit de 90 à 80 pour faire baisser la mortalité routière. Visiblement, ça marche quand on met des radars, quand on met des gendarmes. Il se passe quelque chose.
Là, le sujet, ça a déjà été dit, c'est pas les économies, même si les économies ont leur importance. Moi, il me semble que s'il y a des vies à sauver, il faut tout faire pour les sauver. Alors, on peut discuter l'absence de concertation, mais à ce moment-là, il faut appliquer le raisonnement. Est-ce que vous imaginez que si on avait dit des choses avec des fleurs, très aimablement, il y aurait eu plus de Français favorables à cette limitation? Il y a les trois quarts des Français qui protestent ou qui se disent défavorables devant cette mesure. En matière de sécurité routière, la plupart des décisions ont rencontré l'hostilité des automobilistes.
La ceinture
de sécurité, ça a failli provoquer l'émeute. Ça va toujours dans cette logique-là, parce que on a le sentiment qu'on bride la liberté. Mais si la liberté, c'est la vie des autres, à ce moment-là, on a le droit de se poser la question.
Bruno Dive.
Oui, moi je conseille à nos auditeurs et téléspectateurs de regarder les archives de l'INA. C'est tout à fait édifiant et consternant. À chaque mesure, François vient de l'évoquer, que ce soit la baisse des premières limitations de vitesse sur la route, sur l'autoroute, la ceinture de sécurité obligatoire à l'avant, à l'arrière, la mise en place des radars, ça a été un tollé. À chaque fois, les gouvernements qui décider ça ne s'en relèverait pas. C'était une mesure inutile, souvent dangereuse. La ceinture de sécurité, c'était dangereux. Ça pouvait provoquer la mort du conducteur. Enfin, on a entendu un nombre d'inepties à chaque étape qui sont assez consternantes et qui donc doivent amener à relativiser le tombereau de critiques qu'on entend sur cette mesure. Alors cette mesure, peut-être qu'elle ne s'avérera pas efficace. Je rappelle que c'est une expérimentation qui est pour 2 ans.
Et
quand on me dit qu'il n'y a pas eu de concertation, concertation. C'est vrai, alors on peut revenir après sur la démarche d'Édouard Philippe. Visiblement, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Mais on ne peut pas dire que les gens ont été pris par surprise. Ça fait 6 mois qu'on en parle. Et c'est d'ailleurs peut-être son erreur politique, c'est qu'on en a parlé beaucoup trop longtemps avant que ça rentre en vigueur et le mécontentement a eu le temps de s'installer.
Alban Nicosi. C'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est une mesure, oui, qui est lisible, effectivement, qui est simple à résumer. La véritable lutte contre la mortalité routière, elle est beaucoup plus complexe. Les Suédois ont actuellement une expérience qui est très intéressante, qui est un objectif zéro victime. L'objectif zéro victime, c'est à chaque fois qu'il y a un accident mortel quelque part, on étudie en quoi l'infrastructure peut être potentiellement responsable. Ça veut dire que dans un carrefour, on peut arriver trop vite et que là, il faut réduire la vitesse à cet endroit-là. Mais ça veut dire aussi qu'il y a, et les motards savent de quoi je parle, un certain nombre de routes en France qui sont dangereuses parce qu'il y a des glissières de sécurité, par exemple, qui agissent comme des guillotines. Mmh. Et je vais vous dire, même toujours sur le plan technique, un autre point. Moi, ce qui me surprend un peu de cette mesure, c'est cette espèce de besoin de prendre cette mesure, effectivement, pas chère, lisible, etc. Aujourd'hui, les voitures, elles sont de plus en plus automatisées. Dans 5 ans, c'est un ordinateur qui vous dira à quelle vitesse il faut rouler et qui prendra le contrôle de votre voiture. En vérité, c'est une mesure. On a l'impression que Édouard Philippe, le Premier ministre, du coup, il existe, il affiche sa fermeté, et puis voilà, c'est son combat. Son combat,
ça aurait été. Dans l'aspect politique dont on peut discuter, mais il y a
mais techniquement, on est de plus en plus dans une mesure qui, dans 10-15 ans, n'aura plus de signification réelle.
Mais sur le plan politique, prendre une décision comme celle-là, alors que les 3/4 des Français y sont hostiles, c'est accepter de prendre un risque politique. Ça ne servira pas sa propre promotion.
Ou au contraire,
de s'avancer sur ce terrain.
C'est son côté. Je suis un homme de raison, un homme de combat. Sauf qui n'hésite pas à dire. C'est un jupéiste.
Non, mais sauf à considérer que l'opinion se retournera sur cette question, c'est-à-dire les 75% qui étaient contre finiront par être pour, comme pour la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, tout le monde admet que la ceinture de sécurité a une fonction utile.
Oui, parce
utile.
Qu'il y a aussi l'airbag, parce que la voiture a changé. La voiture années 70 n'a plus rien à voir avec la voiture d'aujourd'hui.
Aussi la ceinture. Mais quand Bruno dit on peut faire l'un et l'autre, ça n'empêche pas, sauf qu'on ne fait pas. Moi, je ne vois pas de programme de grands travaux d'infrastructure sur les routes secondaires.
Vous qui citiez tout à l'heure la Suède, sur les routes secondaires, celles qui sont en cause dans le décret gouvernemental, la vitesse est limitée à 70 km.
C'est exact.
Alors, un chiffre pour appuyer votre démonstration. La France se situe dans la moyenne européenne avec 5,2 morts sur la route pour 100 000 habitants. L'Allemagne fait mieux, 4,2. Le Royaume-Uni, 2,8. On continue ce débat sur France Info, les informés, 20h40. L'essentiel de l'info avec vous, Julie Smul.
Le portrait géant de Simone Veil et de son mari affiché sur la façade du Panthéon, encadré par les drapeaux français et européens. Cérémonie d'hommage aujourd'hui, des milliers de personnes rassemblées pour saluer la mémoire de celle qui s'est battue pour les droits des femmes, notamment pour le droit à l'avortement. Simone Veil, également symbole de la construction européenne. Les 3 complices de Redouane Faïd avaient sans doute repéré les lieux avec des drones. Précision ce soir de la ministre de la Justice venue à la prison de Réau en Seine-et-Marne. Le braqueur s'est évadé ce matin en hélicoptère. C'est quelqu'un de dangereux, souligne la ministre. Les forces de l'ordre continuent ce soir de le rechercher. Une jeune fille tuée par un TGV, aujourd'hui en gare de Coursans dans l'Aude, percutée alors qu'elle traversait les voies avec une poussette. L'enfant à l'intérieur n'a pas été blessé. Le mondial est décidément cette année beaucoup de surprises. Celle du jour, c'est l'élimination des Espagnols en larmes, assis sur la pelouse. L'Espagne battue par la Russie au tir au but 4-3. Les Russes affronteront en quart le vainqueur du match qui a lieu en ce moment, le Danemark face à la Croatie. Et puis Christopher Froome peut être privé de Tour de France. Question d'image d'après les organisateurs. Froome est visé par une procédure pour dopage. Son équipe Sky dépose un recours. Ce sont maintenant les instances sportives qui vont devoir trancher.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
On continue à débattre de l'actualité concernant cette réduction de vitesse sur le réseau secondaire, 90 km/h, non 80 depuis ce matin. Bruno Dive, y a-t-il un coût politique pour le gouvernement, pour le Premier ministre, sachant qu'il y a sur 90 présidents de conseils généraux, il y en a 27 qui ont fait part de leur opposition.
Un coût CEP ou CEUT ?
Un coût
un coup, c'est OUT en termes politiques.
Oui, oui, politique.
Visiblement, ça lui coûte dans les sondages. Et ça coûte aussi à Emmanuel Macron, qui n'était pas très favorable à cette mesure, d'après ce que j'ai compris, mais qui a choisi, sur un certain nombre de dossiers, de laisser ça en pâture au Premier ministre pour lui permettre, justement, d'exister. Mais je crois que Édouard Philippe, il savait qu'il y aurait un coup politique, de toute façon. Il s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait une fronde de cette ampleur. Mais il le savait, et il en a fait, je pense, une espèce de marque de fabrique. On le disait un peu tout à l'heure, c'est le côté même pas peur. Je suis prêt à affronter l'impopularité, mais je crois qu'il le fait aussi en connaissance de cause. Édouard Philippe a travaillé avec Alain Juppé. Il était à la direction de l'UMP en 2003, quand Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, ont imposé les radars sur les routes. Et vous vous souvenez, c'était la même bronca, c'était une atteinte aux libertés, etc. Et donc, il a vu que finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est porté au crédit de Jacques Chirac. Il a vu la diminution, mais alors drastique, enfin spectaculaire, du nombre de victimes sur la route.
Mais là, ça entre dans un ensemble de décisions.
Les radars existent toujours ça a recommencé à augmenter.
Oui, je rappelle que, exactement, parce qu'évidemment, on s'habitue, il y a toujours du relâchement. Cette mesure a été proposée, le 80 km heure au gouvernement Hollande en 2013. Ils n'ont pas osé le prendre parce qu'il y avait les municipales après. Édouard Philippe, lui, le fait. C'est une marque de courage politique. Certains y verront sans doute une forme d'obstination. Mais en tout cas, c'est sa marque de fabrique.
Judith Vintraube, ça entre dans un ensemble de décisions d'augmentation du prix des carburants. On va dire, une fois de plus, automobiliste va chialer.
Oui, absolument. C'est difficile d'avoir une impression différente quand on est automobiliste, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, à Paris. Mais effectivement, on a l'impression que l'État va au plus facile, à ce qui ne coûte rien, et que comme la Commission européenne l'a remarqué, on n'est pas spécialement bon dans la maîtrise du déficit. Ça peut servir à boucher les trous. Il va y avoir d'autres augmentations très importantes. Il y a le gaz en ce moment. La thématique du pouvoir d'achat est en train de revenir très fort, et là il faudrait qu'Emmanuel Macron trouve des arguments rapidement.
Je rappelle, Judith, que le produit des amendes qui seront perçues oui, au titre de la limitation, enfin, en cas de dépassement de la vitesse de 80 km/h, iront aux hôpitaux et aux services de soins pour les accidentés de la route.
Vous croyez vraiment que l'argent sera vraiment redistribué? Alors, ce sont des grandes promesses.
C'est ce que j'allais dire. C'est notre métier. Ça sera à nous de vérifier si c'est bien ce qui se passera. Mais donc, pour l'instant, en ne faisant pas de procès d'intention, on ne peut pas accuser le gouvernement de chercher à combler les déficits avec ce genre de mesures.
Je vous propose d'ouvrir une page football dans ces informés. C'est la Coupe du Monde. Hier, la France s'est qualifiée pour les quarts de finale en triomphant de l'Argentine. Plus de 12 millions de téléspectateurs. On ne compte pas non plus les nombreux auditeurs sur l'antenne de France Info. Est-ce qu'il faut qu'il y ait ce genre de grands événements pour que la France se rassemble, oublie ses différences, François Arnenwein?
Non, on l'a vu ce matin, l'hommage à Simone Veil était aussi l'occasion d'un rassemblement fort et porteur de messages sans doute plus puissants que ceux qui sont véhiculés autour des stades, où on trouve le meilleur et le pire, me semble-t-il.
Alban Micosi, cette Coupe du Monde, c'est un bel événement de promotion pour Vladimir Poutine.
C'est une réussite absolue. On avait dit au départ, il y aura des phénomènes de hooliganisme. Évidemment, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Je vous ai déjà expliqué à cette antenne que les hooligans russes sont enfermés chez eux avec interdiction de sortir de chez eux sous peine de perdre leur emploi. Donc autant dire qu'ils ont assez peu de chances de les voir dans les rues. On parlait de phénomènes de racisme, il n'y en a pas eu. La Russie s'est ouverte, a reçu 600 000 personnes déjà, va en recevoir environ 750 000 au total. Et puis quelle opération de communication. Les stades sont beaux, les avions partent à l'heure avec un régime en France qu'on ne connaît pas, c'est que les avions peuvent voler de nuit. On peut très bien, les supporters français qui sont arrivés à Kazan hier, pouvaient arriver avec un vol qui arrivait à 2h du matin, parce que oui, Aeroflot vole de 1h à 2h du matin s'il le faut pour acheminer des usagers. Bref,
et en
c'est
plus, la Russie vient de se qualifier pour les quarts de finale.
Alors c'est la cerise sur le gâteau. On va dire que Vladimir Poutine n'avait pas basé la réussite de la Coupe du Monde sur les résultats de la Zbornaïa, parce que la Zbornaïa est quand même une équipe à dimension modeste. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan des infrastructures et sur le plan de l'opération de communication, c'est une réussite majeure dont je vous rappelle, on se l'est déjà dit, qu'elle s'adresse avant tout aux Russes, moyennement à nous.
François Arnenwein.
Moi, je rends hommage à l'expertise d'Alban, qui a été correspondant en Russie, donc qui connaît son monde soviétique ou post-soviétique. Mais les raisonnements qui s'appliquent là-bas s'appliquent ici. On peut réussir de très belles choses en mettant 13 milliards de dollars, c'est-à-dire en faisant exploser la facture de l'organisation de cette Coupe du Monde. Enfin, franchement, c'est une magnifique opération de communication dont la plupart des Russes contribueront à payer la facture.
Vous savez ce que m'avait répondu l'ambassadeur ? À cette question, l'ambassadeur m'avait répondu « on fait ce qu'on veut de notre argent ». Ce qui est sûr, c'est qu'en Russie, on ne s'embarrasse pas de l'opinion publique, de l'aide sociale à ceux qui en ont besoin. De toute façon, il n'y en a pas. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent.
Il s'est passé la même chose à Sochi pour les Jeux Olympiques, où on a
les plus chers de l'histoire.
On a détruit des paysages, enfin... C'est,
mais encore une fois,
c'est pour ça que je disais le meilleur et le pire. Il y a l'exaltation, les moments sportifs, etc. Et puis il y a aussi le business derrière, le nationalisme à l'œuvre. Et ça, c'est pas franchement réjouissant.
Et évidemment, la corruption, quand on pense que le stade de Saint-Pétersbourg a mis 10 ans à se construire et que son budget a été multiplié par 6 à la fin.
Et une Coupe du Monde comme les Jeux Olympiques, c'est l'occasion pour nous, journalistes, de bien montrer ce qu'est véritablement un pays, comment ça se passe à l'intérieur de ce pays, notamment aujourd'hui la Russie, question de droits de l'homme aussi, Bruno Dive.
J'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup, hein. On a parlé pendant les JE de Sochi, c'était un peu différent parce qu'on était en pleine invasion de la Crimée, annexion de la Crimée, et ça avait été boycotté par la plupart des chefs d'État étrangers. Là, d'ailleurs, on oublie que pour cette Coupe du Monde, il y a certains pays comme l'Angleterre qui n'envoie pas de délégation.
Parce qu'en vérité, les 31 autres pays seront là. Notre président de la République sera là si la France.
Gageons qu'Emmanuel Macron, si la France se qualifie en finale au moins, ou meurt en demi, il ira les voir. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup en ce moment des nombreux problèmes qui se passent en Russie, les droits de l'homme, les invasions, les intrusions, disons, à l'étranger. Mais de ce point de vue-là, en effet, c'est une réussite de communication parfaite.
On continue à parler de la Russie, de cette Coupe du Monde, mais version politique sur ce plateau des informés. Avant cela, à 20h50, l'essentiel de l'info, c'est avec vous, Julie Smul.
Y a-t-il eu des failles de sécurité à la prison de Réau, en Seine-et-Marne, prison dont s'est évadé ce matin le braqueur Redouane Faïd? 3 complices armés venus le chercher au parloir, un hélicoptère qui le récupère dans la cour d'honneur et une voiture qui l'attend à une 60aine de kilomètres de là. Toutes les polices le recherchent ce soir. Pas de mort parmi les soldats français visés par cette attaque aujourd'hui à Gao, dans le nord du Mali, mais au moins 4 civils tués et une 20aine de blessés. Un attentat à la voiture piégée au volant, un kamikaze qui fait exploser le véhicule au passage des blindés français. C'est la mi-temps entre le Danemark et la Croatie, un partout. Le vainqueur de ce match affrontera en quart de finale du Mondial la Russie. Les Russes qui ont sorti l'Espagne aujourd'hui 4-3 au tir au but. Du vent, de la grêle et des orages attendus ce soir sur l'ouest du pays. 21 départements en tout en vigilance orange. Le Lot-et-Garonne notamment. Les orages risquent d'être très violents sur place. Des milliers de personnes évacuées par précaution aujourd'hui du festival Garo Rock à Marmande. Un autre département, le Rhône, est lui toujours placé en vigilance orange canicule. Et avec la chaleur, attention également à la pollution. Air irrespirable aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Les 5 départements en plein pic de pollution à l'ozone, alerte qui pourrait être maintenue demain.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
L'actualité semble mise entre parenthèses pendant cette Coupe du Monde de football en Russie. Judith Vintraube, il y a une date importante, c'est le lendemain de la finale de Coupe du Monde. Il y a un sommet bilatéral entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est à Helsinki.
Oui, pour Vladimir Poutine, la victoire de l'équipe russe, c'est pour l'instant une cerise sur le gâteau, mais il est vraiment rentré dans le jeu complètement. D'autant que la rupture, enfin le retrait des États-Unis de l'accord avec l'Iran, de l'accord nucléaire avec l'Iran, fait de Poutine vraiment l'acteur numéro un aux yeux des États-Unis et des Occidentaux, le seul capable de parler à l'Iran et d'empêcher que les choses s'enveniment avec cette puissance qui a des visées impérialistes matérialisées par sa présence au Yémen, entre autres, et qu'il faut arrêter.
Alban Mikouzi, il y a aussi cette relation particulièrement conflictuelle entre Moscou et Washington avec cette campagne de Donald Trump où il y a eu visiblement une ingérence russe.
Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que moi je dis
rien
souvent,
réglé.
Vladimir Poutine et Donald Trump ont beaucoup plus de points en commun que de points qui les opposent. Fondamentalement, ils croient en la même chose, notamment en matière de communication. Ils pensent tous les deux qu'il y a un pouvoir de l'image, que des décisions doivent être rapides, immédiates et spectaculaires, sinon elles ne servent à rien. Il y a, en matière de théorie de communication, beaucoup de choses qui les rapprochent. Et fondamentalement, alors, la Russie a-t-elle eu un rôle majeur dans l'élection de Donald Trump ? On peut toujours le dire. Je pense qu'il y a aussi des systèmes américains qui sont en cause. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens aux États-Unis qui avaient misé sur une défaite d'Hillary Clinton, y compris dans son propre camp, et qui finalement ont fait en sorte que ces trois États qui ont basculé, puisqu'en fait, on la connaît l'histoire. L'histoire, c'est que Hillary Clinton avait en vérité la majorité en nombre de voix, mais que les trois États qui ont basculé ont donné la majorité en termes de sièges à Donald Trump. Et c'est comme ça qu'il a été élu président. On sait même maintenant, tout le monde le sait, qu'il en doutait lui-même la veille. Et il en doutait suffisamment pour ne pas avoir préparé de discours d'investiture. C'est le premier discours le soir même. Il est d'une platitude absolue. Il se contente de remercier tout le monde et de saluer sa famille, juste parce qu'il n'avait rien préparé. Donc on est quand même dans ce niveau-là d'impréparation. Il n'empêche que cette relation Poutine-Trump, elle est importante parce que s'ils s'entendent bien, j'allais dire, tant mieux. S'ils s'entendent pas, c'est catastrophique. Donc, à tout prendre, il vaut mieux qu'il se trouve des points communs.
François Nenwein, cette politique des coups.
Ben, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de communication et l'un et l'autre sont habiles en communication. Experts, je ne sais pas, en tous les cas, tendanciellement habiles. Mais ce qui les rassemble le plus sûrement et ce qui fait la puissance de leur relation et sa rugosité, c'est que ce sont tous les deux des experts du rapport de force. Ils conçoivent la politique internationale comme une suite de muscles bandés, de chars brandis, de bombardiers dans les airs, etc. Cette vision-là, à mon avis, c'est une vision catastrophique pour l'avenir du monde. Et je pense qu'on a raison...
En Corée du Nord, par exemple ?
On a raison, les Européens, de critiquer cette dynamique qui, tendanciellement, rompt les accords, les envoie à la poubelle ou aux oubliettes. Je pense qu'on a raison de continuer à se battre pour une construction du monde par la négociation, plutôt que de muscles bandits, de coups de force. Parce que, je prends l'exemple, on évoquait l'Iran, là, tout à l'heure, et le rôle de la Russie en Syrie. Pour l'instant, par la Syrie, la Russie est revenue dans les négociations internationales. Mais je ne suis absolument pas certain que Vladimir Poutine et les Russes aient envie de s'investir longtemps dans ce dossier moyen-oriental. Donc, résultat, ils auront bousculé l'ordonnancement des choses. Et demain, ils retireront leurs billes en disant « débrouillez-vous ».
Ils ont participé à la lutte contre l'État islamique.
Oui, ils resteront là où sont leurs intérêts, c'est-à-dire dans la partie fertile de la Syrie. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre de la Russie qu'elle règle le problème général.
Elle n'est pas faiseuse de paix.
Non.
Elle n'est pas faiseuse
de paix. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à attendre de ce sommet entre les deux, là, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Donc, mais bon, c'est bien qu'ils se voient, qu'ils se parlent. Mais je suis assez d'accord sur l'analyse. Il y a beaucoup de points communs entre eux. J'ajouterais le culte de la force.
Le culte de la personnalité.
Le culte de la force, voire de la personnalité. Une forme de brutalité. Mais je dirais que Poutine est plus prévisible que Trump, qu'on apprend à connaître, cela dit. Et si vous voulez, pour résumer, il y en a un qui est un joueur de poker et l'autre qui est un joueur d'échecs. Et donc, il y en a un qui fait des coups.
Mais
sans grande cohérence, parce que Judith, vous parliez de la Corée du Nord, mais quelle est la cohérence de vouloir accepter un programme balistique en Corée du Nord et de vouloir dénoncer l'accord avec l'Iran sous prétexte qu'on ne parle pas des problèmes balistiques.
Parce que vous avez vu la Corée du Nord essayer d'envahir ses voisins,
oui,
comme l'Iran.
Ah bah oui, il y a non. un état de guerre
en,
quand
en
même.
En un mot, on a quand même...
Il n'y a pas beaucoup de cohérence, alors que chez Poutine, il y a une cohérence.
Le monde entier a vraiment intérêt, au demeurant, pense ce qu'on veut de Poutine et de Trump, à ce que l'un et l'autre s'entendent.
Ça vaut mieux.
Ces informés de France Info se terminent. J'en profite pour vous donner le rendez-vous politique 8h30, Toussaint à Paty, demain avec Christophe Castaner, le délégué général de La République En Marche, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, François Hernenwein, la une du quotidien La Croix.
Elle est consacrée au climat en constatant que le changement climatique s'accélère, c'est-à-dire que le réchauffement... est plus fort que ce que les experts avaient prévu.
Je remercie également Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Je renvoie vers votre dernier livre, Crime et renoncement, quand la politique dépasse la fiction, aux éditions de l'Observatoire. Merci également à Judith Vintraube du Figaro Magazine. Merci également à Alban Micosi du service international de France 2, à la réalisation ce soir, Nicolas Andreux, à l'édition Fiona Mogadam. Merci de votre fidélité. À suivre tout de suite la météo et l'info. Bonne soirée.